Alors, ce week-end studieux, l'ambiance que l'on sent là, c'est cette ambiance que l'on a. Ce week-end studieux a déclenché quelque chose en nous et a libéré une autre dimension de la vie. Est-ce que. Qui peut me dire ce que vous avez compris pendant ce week-end-là? Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais non, me dites pas ce qui a été dit. Dites quelque chose que vous avez réalisé, quelque chose que ça a fait en vous. Oui, Aymeric, lève-toi, s'il te plaît. Venez ici rapidement. Je veux juste.
En fait, nous sommes un facteur d'influence dans notre environnement, tout compte fait. C'est surtout ça. Donc, on n'a pas besoin de vouloir évangéliser à tout prix ou autre. C'est déjà ce que l'on est nous-mêmes par rapport à notre vie qu'on a avec Jésus, mais à la maison déjà, qui ressort après à travers de nous. Voilà.
Alors, on partage quand même l'évangile, mais ça, c'est important de comprendre ce point. Oui, qui encore? Oui, venez, rapidement, venez, dites ce que vous avez compris.
On amène, moi ce que j'ai compris, c'est qu'on amène le règne de Dieu qui est déjà en nous, on l'amène, on ne le garde pas à l'intérieur de l'Église, mais on l'amène à l'extérieur dans plusieurs domaines. Et il y a des domaines dans lesquels qui vont vous faire réagir, qui fait que, parce que le Seigneur a quelque chose à ce niveau-là pour vous, il y a un don, il y a un talent, et vous allez pouvoir amener ce règne-là dans des domaines qui sont bien pour vous.
Gloire à Dieu. Ok, qui encore? Oui.
J'ai réalisé que l'Église a toute sa place dans le monde. Les religieux essaient de nous en faire sortir. Et à vrai dire, l'Église doit être dans le monde. Elle a complètement sa place dans le monde. Elle n'est pas du monde, mais il ne faut pas confondre du et dans. Mais on doit être totalement immergé dans le monde.
Oui.
On parle du monde des finances, du monde de l'éducation, du monde. Voilà, il y a plusieurs mondes. En fait, il n'y a pas plusieurs mondes. Il y a un seul monde et nous avons les clés de ce monde-là. Il suffit juste de l'investir complètement et sortir de l'Église. C'est tout.
Oui, alors, je vous avais prévenu. Merci, hein. Donc, je vous avais prévenu. Le thème de ce week-end studio pouvait être juste ennuyeux. Parce que dire. Que l'on va parler de quelque chose que l'Église ignore, et puis ensuite entendre dire qu'il va s'agir du royaume de Dieu, ça semble juste ennuyeux. Parce que l'Église l'ignore. Mais quand l'Église comprend comment fonctionne le royaume de Dieu et comment le Seigneur veut la positionner, là, on se dit, peut-être que je ferais bien d'ouvrir mes oreilles sur une vérité que le Seigneur veut nous dévoiler. Quand Jésus nous a appris à faire la prière dite du Notre Père, uniquement parce qu'elle commence par Notre Père, ensemble, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne. Le règne, c'est le royaume. Le royaume. Alors on sait, pour résumer brièvement, que Dieu a toujours voulu que son règne soit établi sur la terre. C'est un règne d'amour, mais c'est quelque chose qui a à voir avec la manière de faire de Dieu. C'est-à-dire, on peut dire, le règne de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu pour vivre en société. C'est la société de Dieu. Dieu a voulu que sa société, sa manière de faire, sa manière de vivre ensemble, sa manière de se projeter ensemble, sa manière de se multiplier sur la terre et au-delà, et que ça se fasse à sa manière. Et quand il est question du règne de Dieu, il est question du royaume de Dieu, c'est-à-dire de la domination de Dieu, qui est une domination d'amour, mais c'est lui qui a la primauté. Quand il est question du royaume de Dieu, il est question du gouvernement de Dieu et de la gouvernance de Dieu sur terre. Et le fait de se soumettre à cette gouvernance de Dieu libère les hommes et les rend beaucoup plus épanouis. Ça n'est pas en se soustrayant à la manière de faire de Dieu que l'on prospère. Au contraire, on se fourvoie. Et c'est exactement ce que veut le diable. Mais quand il est dit, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté, c'est-à-dire la volonté du règne, soit faite. Soit faite. Où ça? Est-ce que tu es sur terre? Donc Dieu veut toujours que son règne, que son gouvernement, que sa, il veut sa volonté soit faite sur terre. Hier, nous avons, et évidemment comme c'est au ciel, puisque la terre était supposée être le reflet du ciel. Hier et avant-hier, pendant ce week-end studieux, ces 6 heures, nous avons vu que l'Église a oublié une partie du message qui est à prêcher. Vous vous souvenez que l'Église a prêché le message du salut et que l'Église a oublié. Alors, je ne sais à partir de quel moment l'Église a mis de côté, la Bible parle de la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, et le Seigneur a dit que cette bonne nouvelle du royaume, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre, que cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée jusqu'à la fin. Et nous ne sommes même pas encore à la fin. Nous ne sommes pas sur le point d'entrer dans le millénium encore. Et jusqu'à aujourd'hui, nous devrions entendre parler de cette gouvernance de Dieu. On se rappelle également que on a parlé de ces rêves qu'ont eu deux grands serviteurs de Dieu. Ça les a interpellés parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient fait le même rêve à peu près à la même période. Et il s'agissait ils ont vu 7 montagnes. Ces 7 montagnes représentaient 7 domaines d'influence qui gèrent la société. Nous avons vu ensemble que nous croyons qu'en voyant plus de personnes sauvées, nous allons voir la société changer. Et nous avons découvert que ça n'est pas le cas. Donc oui, nous continuons à transmettre l'Évangile, mais et nous voulons voir plus de personnes sauvées. Mais ça n'est pas ce qui va changer notre société, ça n'est pas ce qui va changer notre pays. Ce qui change notre pays, ce qui change notre société, c'est le fait que le royaume de Dieu soit établi dans les zones d'influence. Est-ce que vous vous rappelez quels sont ces domaines d'influence-là? On peut dire quoi? La famille, quoi? L'Église? Les médias, les arts, les affaires, affaires finances, l'éducation et le gouvernement. Et donc, quand le diable a dit à Jésus au moment de la tentation, il a dit, tu vois, tous ces royaumes, et quels? Ces sphères d'influence, je te les donne et j'en fais ce que je veux. Et je mets qui je veux. Grosso modo, c'était ça. Ça transparaît beaucoup plus dans d'autres versions. Et le diable était en train de se vanter de ce qu'il était capable d'impacter la société en mettant les siens à la tête de ses zones d'influence. Jésus, lui, a dit à ceux qui étaient nés de nouveau et à ceux qui sont en alliance, qui sont dans une alliance avec lui, il a dit « Allez par tout le monde ». Qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens? Ils ont envoyé des missionnaires en Afrique, en Inde, aux Philippines, dans les îles, en Amazonie, en Afrique du Sud, un tout petit peu en Europe. Et c'est ce que l'Église a compris. Eh bien, voilà ce que nous devons faire. Nous devons envoyer, nous devons aller par tout le monde, voir toutes les nations prêcher l'Évangile à toutes les créatures. Ça oui, ça parle de l'Évangile du salut. Mais quand il est dit d'aller dans toutes les nations, de toucher toutes les nations ce sont les peuples, et là il est question de l'Évangile du royaume. Si bien que parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la différence entre ces deux messages, qui ne comprennent pas que la volonté de Dieu est d'établir son royaume sur terre, un nouveau royaume qui sera imposé pendant le millénium. Mais ça n'est pas parce qu'il n'est pas encore imposé que Dieu ne le veut pas. Mais c'est à l'Église de prendre conscience de ces choses-là. À cause de cela, beaucoup de chrétiens sont dans les églises. À cause de cela, bien, on a vu cela ensemble, hein, que le fait de connaître sa destinée est un argument contre la mort. Un peu comme disait tout à l'heure Pascal, dit autrement, le fait de connaître la destinée de Mika est un argument contre les non-réponses. Quelqu'un qui ne sait pas quels sont les dons qui sont en lui, quelqu'un qui ne comprend pas qu'il est là pour libérer la domination de Dieu, quelqu'un qui ne comprend pas qu'il est là pour entrer dans ces sphères d'influence qui vont changer la société, comme par exemple Mel Gibson l'a fait à travers les médias, eh bien c'est quelqu'un, quand il reçoit une réponse négative, acceptera cette réponse négative. Si quelqu'un ne comprend pas pourquoi il est loin pour faire des affaires et comment il peut changer la société, eh bien c'est quelqu'un qui se lamentera de ne pas avoir de contrat et qui dira, quand il a suffisamment d'argent, eh bien j'en ai assez. L'Église, les amis, ça n'est pas cela. Donc écoutez, tout cela a été dit, j'essaie de vous résumer en quelques petites 10 minutes, 6 heures de cours, mais en tout cas, ou 6 heures moins 60 minutes vu les pauses. Mais ceci dit, j'aimerais terminer avec ceci. Regardez dans Luc chapitre 1, parce que je crois fermement qu'en réclamant ce que je vais vous dire ce matin, eh bien je suis persuadée que nous allons voir notre année bien différente. Et je crois que certaines personnes vont pouvoir trouver, vont voir des choses qui vont se débloquer dans leur vie, vont voir des choses qui vont s'emboîter. Mais il est important que l'on dise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Qu'est-ce que tu veux faire de moi, Seigneur? Et d'ailleurs, c'était assez intéressant en parlant avec Émilie, qui on sentait, Émilie est dans l'éducation, hein, qui était en train de dire, mais ce que je vois là, ça l'est. Vous vous rappelez hier quand j'ai parlé, comment savoir quels sont les désirs de votre cœur? Entre autres, vérifiez ce qui vous provoque, vérifiez ce qui vous titille, vérifiez ce qui peut vous agacer, vérifiez ce qui vous agace tellement que tu dis j'aimerais que ça change. Émilie était en train de parler de cela et elle disait voilà ce que je veux faire. Gloire à Dieu! Le royaume de Dieu, quand un chrétien qui connaît sa zone d'influence dit « voilà ce que je veux faire », ça veut dire que le royaume de Dieu, la manière de faire de Dieu, est sur le point d'être libéré dans cette zone-là. Parce que le Seigneur libère son royaume, non pas en entassant des chrétiens dans une église, mais en faisant en sorte que ces chrétiens sachent où ils se situent dans la société et qu'ils fassent leur part pour que cette société, eh bien, soit au bénéfice du gouvernement, de la gouvernance de Dieu et de la manière de faire de Dieu. À nouveau, ce sont elles qui libèrent, ce sont elles qui apportent la véritable justice. Vous avez trouvé Luc chapitre 1, verset 28. Alors, il est question de la visitation qu'a reçu Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Une autre version dit, « L'ange entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Verset 30, l'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. » Waouh ! Apparemment, cette faveur-là va faire quelque chose de différent de l'amour de Dieu. Parce que Dieu, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, de cette puissance qu'est la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu fait que les gens n'ont pas besoin de manipuler pour arriver à l'endroit où ils se voient en Dieu et avec Dieu. Ici, on sait que Dieu aime tout le monde. Néanmoins, tout le monde n'a pas sa faveur. Vous vous rappelez ce qu'il est dit de Jésus, que Jésus grandissait devant les hommes et devant Dieu en faveur. Alors, Dieu aime tout le monde. Néanmoins, tout le monde n'a pas sa faveur. Alors, il faut savoir dans quel cas Dieu donne sa faveur et que fait la faveur de Dieu? Comment est-il possible que quelqu'un soit hautement favorisé par Dieu? Tu sais ce que ça veut dire, favorisé? Ça veut dire, vous là-bas, ma petite dame, au fond là, oui, vous madame, dans cette file d'attente à la sécurité sociale, venez ici, vous madame, venez ici. Et tout le monde vous regarde en disant, mais dit, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, celle-là, là? Qui connaît-elle? Comment se fait-il que cette personne nous passe devant? Hautement favorisée. Et ça ne veut pas dire que cette petite dame comprend ce qui lui arrive. Elle y est pour rien. Elle n'a pas un plus grand sourire que d'habitude, surtout là-bas. Elle n'a pas son maquillage. Elle n'a pas des mini-jupes. Rien dans le naturel. Elle n'est peut-être pas forcément plus grande que les autres. On ne la remarque pas. Hautement favorisée quand le regard de quelqu'un en autorité s'est posé sur elle. La faveur, c'est quoi? La faveur, c'est l'affection de Dieu sur vous qui fait que les autres sont enclins à coopérer avec vous ou à vous aimer. C'est-à-dire qu'ils ressentent pour vous l'amour que Dieu ressent. Tout d'un coup, quelqu'un qui a la faveur, c'est quelqu'un qui va se détacher de la masse et la personne ne pourra pas quitter du regard celui qui a la faveur. Il ne voit plus les autres. Tout d'un coup, le cœur de cette personne-là, dont le regard se pose sur celui qui a la faveur, le cœur de cette personne va dans cette direction, veut aider cette personne-là. Et c'est-à-dire qu'il va mettre ses ressources à la disposition de celui qui a sa faveur. Et puis, de toute évidence, là, on voit Marie qui reçoit cette visitation. Quand quelqu'un a la faveur, cette personne attire les anges. Comme je vous l'ai lu tout à l'heure, Luc chapitre 2, verset 40. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Certains ont la faveur avec Dieu, mais ils ne l'ont pas forcément avec les gens parce qu'à cause de leur caractère, ils continuent de les offenser. D'autres ont la faveur avec les gens, mais ils n'ont pas la faveur avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas avec ce qu'ils font. Mais en revanche, ils ont la faveur avec les gens. Peut-être qu'ils ont la faveur avec les gens parce qu'ils savent manipuler, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, ce que l'on veut cette année, c'est exercer notre foi pour recevoir davantage de cette faveur afin que le Seigneur puisse nous positionner dans notre vie privée, nous positionner en tant qu'Église pour que l'on soit rendu à même de libérer le règne de Dieu là où nous sommes. Qui peut dire que le message de ce week-end studieux, ben vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas vous le donner en un dimanche, même si je vous recommande d'écouter le message que j'ai prêché le premier dimanche de l'année. Mais en tout cas, c'est le thème de ce message que j'ai pour cette année, pour nous en tant qu'Église. Et le prêcher en un dimanche, ça n'était juste pas possible. Mais pour que ce que l'on a compris ce week-end puisse porter du fruit, mes amis, nous allons déclarer que nous avons la faveur. La faveur avec Dieu et la faveur avec les hommes. Regardez avec moi dans Esther chapitre 2, s'il vous plaît. Esther chapitre 2, vous savez, on est beaucoup moins nerveux quand on sait que on fait quelque chose pour le Seigneur parce qu'on sait que ça, c'est sa faveur qui va faire qu'on va recevoir de l'aide. Parce que peut-être que certains ne l'ont pas réussi, mais personne n'y arrive seul. Ça ne sert à personne d'avoir un grand sens des affaires ou un beau produit à vendre s'il ne sait pas travailler avec d'autres personnes, s'il ne sait pas créer un marché, s'il n'a pas d'acheteurs, ça ne sert à rien. Ou s'il n'a pas peut-être, si quelqu'un a une bonne idée, mais s'il n'a pas un designer pour concrétiser cette idée, s'il n'a pas quelqu'un qui sait libérer un produit sur un marché, ça ne sert à rien d'avoir. Nous sommes appelés en tant qu'êtres humains à travailler avec les autres. Ce qui veut dire, ben, il faut que nous ayons une certaine faveur. Il faut que le regard des autres soit posé sur nous, non pas parce qu'on les y oblige. Des tas de choses qu'on ne peut pas obliger les autres à faire, heureusement. Il faut que ce soit une volonté de l'autre personne de s'intéresser à nous. Il faut que ce soit la volonté de l'autre de nous aider. Je dis, attends toi, tu sais, je ne te connais pas, peut-être même que je ne t'aime pas, mais... J'arrive pas, j'ai envie de t'aider. De combien as-tu besoin? Ou dire, tiens, attends, pousse-toi là, je vais te faire là. Non, non, je sais que tu veux avoir telle chose, je sais que tu ne sais pas comment, moi je sais, on ne se connaît pas, bon écoute, voilà, ne me demande pas comment. Et moi j'ai vu des gens, en dépit d'eux-mêmes, me donner des choses dont j'avais besoin. Pour tout vous dire, à chaque fois depuis 1987, j'exerce le ministère et toutes les salles dont j'ai eu besoin, que ce soit pour l'église, que ce soit pour des conférences, tous les bâtiments, que ce soit pour ma maison, appartement, quoi que ce soit voulu, Tout a été obtenu grâce à la faveur de Dieu. Parce que dans le naturel, où ça n'était pas possible, où ça n'avait pas de sens, la faveur de Dieu. Esther, chapitre 2. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte, le roi Assuérus, il se trouve que... Sa femme a fait un faux pas, il en a du moins pensé ainsi, et puis il a décidé de prendre une autre femme. À l'époque, ça se faisait comme ça. Dans le monde, ça se faisait comme ça. Et donc, il va choisir une autre épouse, et bah, il le fait, il fait venir toutes les jeunes filles les plus belles du royaume. Et puis, parmi elles, se trouve une jeune femme, verset 15. « Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abishaël ou d'Abikaël, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce, une autre traduction, c'est Esther, trouvait faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Parce qu'il ne s'agit pas qu'elle ait simplement la faveur du roi. La Bible nous dit que pendant 6 mois, elle a été préparée. Et, alors, messieurs, peut-être que vous ne réalisez pas, mais imaginez un harem. Rien que des dames qui sont en compète pour devenir la reine. Il peut y avoir des sales coups. Il peut y avoir des tricheries. Quand vient le moment de faire peut-être une huile d'onction, de mettre une huile qui pue, vous savez. De mettre quelque chose, au lieu de mettre une bonne crème qui est supposée donner une peau de pêche, te la décape. Et tu te réveilles le lendemain matin, t'es rouge. T'as subi un peeling. Tu ressembles à un hamburger. Il peut y avoir des sales coups. Donc, c'était bien que la reine puisse trouver grâce et faveur auprès du roi. Mais il a fallu qu'elle la trouve auprès de tous ceux. C'est-à-dire, ça a commencé avec la personne qui est allée dans son village, qui a fait venir toutes les jeunes filles sur la place et qui a dit, hop, maintenant, je vais choisir celle qui est la plus belle. Et son regard s'est posé. Tu peux dire, ah, bah, bien sûr! Évidemment, c'était un concours de beauté, donc déjà, il prenait les plus belles. La faveur n'a rien à voir avec la beauté. Dans ce cas-là, le roi voulait quelqu'un de beau, mais ça ne suffisait pas, parce qu'il y avait des centaines de jeunes femmes qui étaient belles. Et la Bible nous dit que c'est la faveur qu'il a amenée dans cette sphère d'autorité qu'il a été le gouvernement. Mais vous savez combien de jeunes filles chrétiennes aujourd'hui, si on lui disait, tu sais, eh bien, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu te maries avec le président. Beaucoup rigoleraient, peu accepteraient. Quel est le pourcentage des jeunes filles chrétiennes qui aujourd'hui oseraient accepter une telle vérité? Aller à une telle sphère d'influence. Il nous est dit ensuite, Esther trouvait grâce ou faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. C'est pour ça qu'il l'a aimée, parce qu'il y avait la faveur. C'est son cœur a été enclin à l'amener à cette position d'autorité. Ça n'était pas qu'une question de beauté. C'est ça le problème quelquefois. C'est que les gens s'appuient, comptent sur des qualités naturelles, des talents naturels pour parvenir où ils sont. En général, plus les gens sont doués et moins ils arrivent à faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils dépendent, ils comptent beaucoup plus sur leurs talents. Et alors que pour faire la volonté de Dieu, il faut faire preuve d'humilité, c'est-à-dire dire « je n'y arriverai pas toute seule, je vais compter sur Dieu ». Quelqu'un qui est bon peut-être en comptabilité, qui est un expert en comptabilité, a besoin de s'appuyer sur le Seigneur pour aller là où le Seigneur veut l'amener. Dès qu'on commence à dire « je sais », dès qu'on commence à dire « oh, j'y arriverai », c'est la chute qui commence. Et il est dit ici, il mit la couronne royale sur sa tête. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a porté cette couronne royale? Est-ce que c'était sa beauté? Est-ce que l'on connaît quelque chose de son caractère à ce moment-là? Non, il est dit, c'est la faveur. Et il la fit reine à la place de Vashti. Quelquefois, vous voyez quelqu'un qui fait un mauvais travail et vous dites, oh là là, moi je sais que je pourrais faire ce travail et je pourrais voir le royaume de Dieu étendu dans ma sphère d'influence. Je pourrais changer l'atmosphère au travail. Si j'arrivais à ce degré d'influence, je pourrais changer l'atmosphère au bureau. La Bible nous dit que par la faveur de Dieu, elle a pris la place de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas eu besoin de se prostituer pour cela. Elle n'a pas eu besoin de manipuler. Elle n'a pas eu besoin de supplier Dieu et de se lamenter. Elle s'est laissée porter par la faveur de Dieu. Gloire à Dieu! Donc la faveur, c'est quelque chose de puissant. C'est un charisme, c'est le charisme de Christ. C'est sa force, la faveur de Dieu agit sur nous comme avec l'effet d'un aimant. Les gens sont attirés et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, parce qu'en général, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que quand, au début d'un entretien, et on a entendu des témoignages, Pasteur Elisabeth, au début qu'elle est arrivée sur la Côte d'Azur, donnait ce témoignage qu'elle savait qu'elle devait travailler dans une boutique, et, alors qu'elle ne connaissait pas du tout Monaco. Et le Seigneur lui a dit, c'est là que tu vas travailler. Donc, tout naturellement, comme disait Sandrine tout à l'heure, eh bien, elle a mis des jambes à sa foi et elle est allée se présenter. Et les premiers mots qu'elle a entendus étaient, ah, désolé, je n'ai rien pour vous, je n'ai aucun poste pour vous. En général, les gens auraient dit, bon, bah, d'accord, tant pis, merci, madame. Tenez, je vous laisse mon téléphone au cas où. Qu'est-ce que l'on fait quand on sait que l'on doit être quelque part et que la réponse que l'on entend ne correspond pas? On reste à sa place et on laisse le temps à la faveur de Dieu d'agir dans la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la conversation, Eh bien, cette propriétaire du magasin lui disait « Venez lundi ». Ce travail a été une telle bénédiction que quand elle est allée à l'école biblique, elle a travaillé 2 mois pendant ses mois d'été et elle a payé son année. La deuxième année. C'était énorme. Mais c'était quoi? C'était la faveur de Dieu qui n'a rien à voir avec la manière dont nous sommes habillés. Bien sûr que l'on veut se présenter sous le meilleur jour. Si vous voulez, la faveur de Dieu n'empêche pas de faire notre part. La faveur de Dieu, c'est je fais ma part, mais avec quelque chose de plus de Dieu, il me met là où je dois être. Imaginez comment on ferait des affaires avec la faveur de Dieu. Hein? Vous savez, quand une des choses que je prierai, pour laquelle j'exercerai la foi pour les enfants, serait qu'ils aient la faveur de Dieu au début de l'année scolaire. Vous savez, quand un enfant a la faveur de Dieu, le prof, l'instituteur est prêt à faire des heures supplémentaires pour aider un enfant. Il le prend en charge, il se l'approprie, il devient presque responsable de son avenir. Il porte cet enfant. Ça, c'est quelque chose qui est à la disposition du corps de Christ. C'est-à-dire que la faveur de Dieu va faire que quand l'entreprise ne va pas bien, eh bien, celui qui a la faveur de Dieu va avoir une prime. C'est-à-dire que la faveur de Dieu est à l'œuvre, mais il faut que l'on soit conscient de ce qui est pour nous. La faveur de Dieu avec les parents. Je vois Aline là. La faveur de Dieu avec les parents des élèves. C'est énorme ça. La faveur de Dieu avec votre boucher. Ça veut dire que les pièces qu'il se garde pour lui, il va vous les vendre. Ou offrir. Actes chapitre 7, verset 9. Cette année, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on est à Nice. On va contribuer à changer l'atmosphère de Nice parce que, et de la Côte d'Azur, de la France et de la francophonie, parce que nous allons accepter que le Seigneur nous positionne là où il veut. Et quand nous serons en route pour aller là où il veut, quand nous serons là où il veut, alors, sans scrupule, nous libérerons le royaume de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est beaucoup plus facile d'annoncer l'évangile du salut. Actes chapitre 7, verset 9. « Mais Dieu fut avec lui et le délivra Moïse de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce ou faveur devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Grâce à la faveur, il est arrivé à la deuxième plus haute position du pays. Ça n'était pas à cause de la corruption, ça n'était pas à cause de son bagage intellectuel, même si il en faut quand même un arrivé à ce stade-là. Mais qu'est-ce qui l'a amené à voir la création d'un poste de premier ministre pour lui? C'était la faveur de Dieu. Dans Genèse chapitre 39, verset 4, il est question de Joseph. Quelquefois, vous savez, les gens disent « Oh, je n'y arriverai jamais parce que… » Et ils commencent à énumérer la liste de tout ce qu'ils n'ont pas. « Oh, je n'ai pas d'éducation. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, je n'ai pas de contact. Oh, je n'ai pas la soi-disant bonne couleur de peau. Oh, je ne parle pas suffisamment la langue. Oh, je suis trop jeune. Oh, je suis trop âgé. Oh, je suis marié. Oh, je suis célibataire. » Et ils commencent à faire la liste de tout ce qu'ils n'ont pas au lieu de dire « Mais ça n'a aucune importance. La faveur de Dieu. » Je vais croire que la faveur de Dieu va faire le travail. Genèse chapitre 39, verset 4. Joseph trouva grâce, faveur aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Vous voyez ça un peu? Non mais c'est énorme! Il lui a pas juste donné, c'est comme s'il lui avait remis sa vie entre les mains. Et Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier, dit une autre version. Il lui confia la responsabilité de sa maisonnée et l'administration de tous ses biens. Il lui a remis sa vie entre ses mains. Évidemment, la faveur, on se rappelle ce qui s'est passé pour Joseph. Joseph a eu une telle faveur qu'il y a quelqu'un de l'entourage de Joseph qui a commencé à pervertir cette faveur. Et ça, c'est un avertissement. C'est-à-dire que la femme de cet homme a essayé de tenter Joseph. Et c'est exactement ce que le diable aurait voulu faire. C'est-à-dire que quand on a la faveur de Dieu, il faut savoir où sont les limites, de manière à ne pas la pervertir. Et quand on voit que la faveur que nous avons est en train de nous amener vers, ou risque de nous amener vers une voie qui est contraire à l'intégrité, immédiatement, il faut savoir prendre ses distances. Et là, ça, c'est un avertissement. Et je pense que beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de ministres feraient bien d'entendre cela. Parce qu'il y a des tentations par lesquelles ils passent, parce qu'ils ont la faveur, mais c'est un usage perverti de la faveur. La Bible nous dit que également, on se rappelle que dans Actes chapitre 13, verset 45, la faveur va produire le diable, ce qu'il veut faire, c'est que l'on cesse de garder cette faveur sur nous parce que c'est celle qui nous amène vers le succès. Donc, il va essayer de provoquer des tentations. Mais également, une chose que fait la faveur, eh bien, c'est qu'avec la faveur, en général, vient la persécution. Et ça, on n'aime pas cela. Pourquoi ? Parce que la faveur suscite de la jalousie et de l'envie. Quand vous avez quelqu'un qui est tout au bout de la file et que tout le monde a attendu, je vais vous dire, trouvez-vous dans un aéroport quand les bagages ont été perdus et que vous avez tout un avion qui fait la queue pour enregistrer cette perte ou ce retard de bagages après un long voyage. Tout le monde a envie que ce soit réglé rapidement parce qu'on veut tous rentrer à la maison, prendre une bonne douche et peut-être se reposer. Et vous, vous êtes là, vous êtes tout au bout de la file parce que vous êtes sorti, vous étiez à l'arrière de l'avion et tout d'un coup, quelqu'un dit, vous là-bas, là, venez ici, venez ici. Je peux vous dire que les gens, ils vous regardent avec des torpilles, des scuds qu'ils vous envoient. Et vous entendez toutes sortes de choses pendant que vous êtes en train de passer cette file-là. Vous dites... la faveur sur vous, elle risque d'apporter une certaine jalousie et persécution. On le voit dans Actes chapitre 13, verset 45. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contradisant et en l'injuriant. Paul était quelqu'un qui non seulement avait le message, mais vous savez, moi je suis étonnée que vous pouvez avoir le message et les gens ne vous écoutent pas pour autant. C'est-à-dire qu'il faut le message et il faut la faveur. Et Paul l'avait et cela a créé de la jalousie de la part des religieux. La même chose s'est passée avec Jésus. Je vous lis dans Matthieu, chapitre 27, verset 18, il est dit qu'ils enviaient Jésus. Et c'est pour cela qu'ils l'ont livré à Pilate. Regardez Néhémie, chapitre 2. La faveur dit, cette année, la faveur m'accompagne. Et je vais voir de grandes choses. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2, verset 1. 1 à 5. 1 à 8. 9 d'abord. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Bah oui, évidemment. Donc vous imaginez que c'est vous qui devez goûter les mets du roi. Et quand nous avions des rois, la même chose se passait. Hein. parce qu'il suspectait peut-être quelqu'un de prendre sa place et d'empoisonner la nourriture. Donc, ils avaient un serviteur qui était là et qui goûtait les mets, qui goûtait le vin. Donc, imaginez qu'il valait mieux paraître en pleine forme devant le roi. Parce que avoir quelqu'un, le goûteur de votre vin, qui arrive avec une couleur mauve ou verte sur le visage, ou quelqu'un qui arrive et qui, oh là là, ou quelqu'un qui est triste, ça n'est pas un bon signe. Et là, il dit, mais tu n'es jamais arrivé triste, tu n'es jamais arrivé contrarié. Je sais que, en plus de goûter le vin pour moi, je sais que tu es quelqu'un qui n'a pas de saute d'humeur. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, donc ça veut dire que ce que tu as goûté est bon. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Oh, allez, ça y est, ta petite copine t'a laissé. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. C'est-à-dire, non, tout va bien, tout ce que tu as mangé est bon. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? C'est-à-dire que là, il est en train de réagir. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Comment est-ce que l'on peut connaître les désirs qui sont dans notre cœur? Bien, vérifions ce qui suscite des réactions en nous. Et là, le fait d'entendre la nouvelle concernant Jérusalem l'a complètement dévastée, l'a affectée. Et le roi me dit, ok, que demandes-tu? Non, mais c'est pas banal de dire ça à son serviteur, non? Je priais le Dieu des cieux. Là, c'est le genre, vous savez, c'est le genre de prière éclair. On n'a pas le temps d'envoyer un SMS à tous les prieurs pour dire, vite, dépêchez-vous, priez pour moi parce que le roi m'a demandé, le président m'a demandé, que veux-tu? Il faut que je lui donne une réponse. Ça, c'est la plus courte prière que l'on trouve dans les Écritures. Vite fait, Seigneur, le plus important. Ben c'est bizarre, hein? La prière était courte, mais la réponse est venue quand même. Et il dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, ça veut dire quoi? Ben, si j'ai la faveur. Si ton cœur est tourné vers moi, si l'amour que mon Dieu me porte, tu le ressens pour moi, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères. En plus, il parlait de l'envoyer vers la ville de la tombe de ses pères. Je veux dire, il n'a pas dit vers la ville des grands palmiers, nous avons une grande histoire, nous attendons le Messie là. Non, non, il a parlé des tombes carrément et des sépulcres. Pour le roi Assuérus, un roi perse, je ne sais pas si c'était le bon argument à donner, de dire je vais aller voir un cimetière. À vrai dire, Jérusalem ressemblait plus à Hiroshima, après le passage des Babyloniens, qu'à autre chose. Écoutez bien là, le roi auprès duquel, verset 6, le roi auprès, et il dit donc, envoie-moi, verset 7, en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Non mais attendez, vous voyez, vous, un employeur qui dit peut-être à sa secrétaire, un hôtel qui dit à son concierge, parce que c'était à peu près ça la différence de rang, et qui lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? Tu m'as pas l'air bien ce matin, tu es un peu patraque, je n'ai pas l'habitude de te voir comme cela, qu'est-ce qui te contrarie? Ben il faut que tu sais, là où ma famille est enterrée, et j'ai appris de mauvaises nouvelles, et je voudrais y retourner. Donc déjà, ça c'est quelque chose, qu'il puisse exprimer le sujet qu'il préoccupe. Et en plus, son employeur, le plus haut du pays, lui dit « Ah bon, tu veux partir quand ? Et tu reviens quand ?» Il aurait pu lui dire « Bon ben écoute, hein, je te donne 2 semaines, débrouille-toi, je ne peux pas te donner plus. Pourquoi ? Parce que tu es le meilleur employé que j'ai, tu es le meilleur goûteur de vin que j'ai et ma vie dépend de toi. » Il faut réaliser ce que ce roi était en train de libérer comme employé. Il était en train de libérer quelqu'un qui avait une importance dans sa vie. Et c'est lui, la plus haute autorité du pays, qui lui dit « Non mais, quand seras-tu de retour? De combien de temps as-tu besoin ?» voyez jusqu'où peut avoir la faveur. C'est exactement comme s'il avait dit « Ok, j'aurais, tu sais, pourquoi est-ce que tu es triste ?»« Oh bah tu sais, j'aurais besoin d'une... Les factures, là, s'empilent. »« Ah bon, tu as besoin d'une prime ?»« D'accord, de combien veux-tu ?» C'est la même chose, hein. Ah, tu as besoin d'une personne pour t'assister à ton travail parce que c'est beaucoup trop pour toi. Ah d'accord, de combien de personnes veux-tu? Non, tu as besoin d'une voiture pour ton travail. D'accord, quel modèle? Verset 6, le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage? Donc il a... Non seulement la faveur avec le roi, il a la faveur avec la reine. Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixais un temps. Je lui fixe un temps. Puis je dis au roi, tu sais, si ça n'est pas l'Église qui fixe un temps, qui fixe un montant, ça va être le monde qui va nous fixer un temps et un montant. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, roi de la forêt, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est-à-dire la faveur. Est-ce que vous avez déjà entendu dire de quelqu'un « la main de Dieu est avec lui » Parce que la faveur, c'est quelque chose de tangible. C'est presque quelque chose qui peut se voir sur quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose qui se sent sur quelqu'un. Et non seulement il l'a laissé partir, il lui a dit « d'accord, quand est-ce que tu reviens et de quoi as-tu besoin ?» Et Néhémie a dit, eh bien, j'ai besoin de lettres de recommandation, c'est-à-dire, j'ai besoin de ne pas être entravé dans mes déplacements. J'ai besoin d'aller d'une région à l'autre, libre circulation. Il dit, d'accord. Et puis quoi encore? Eh bien, j'ai besoin de bois pour reconstruire la ville, la muraille, le temple, etc. Et il dit, et même pour ma maison à moi. Et le roi a dit, d'accord, prends tout ce que tu veux. Non, mais ce roi était un roi païen, vous comprenez cela? Païen de chez païen, de chez païen, qui adorait toutes sortes de divinités. Et il était à la tête d'un empire. Et malgré cela, son cœur s'est incliné vers un petit juif. Tu estimes que tu n'as rien? Vous savez, la reine Esther est sortie de nulle part. Elle n'avait même plus ses parents, c'était une jeune femme qui avait été adoptée, une juive. Mais parce qu'elle a accepté d'aller là où le Seigneur l'amenait, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où son peuple a eu besoin de délivrance, elle était bien placée. Vous savez, quelquefois, je pense que l'Évangile est difficile à être annoncé dans un endroit, dans un pays, dans une ville. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient appelés à avoir des postes d'autorité ont fait du tourisme pendant ce temps-là. Et ont rendu le travail plus difficile pour les autres. Cette faveur-là. Alors, on pourrait se dire, vous savez, il y a beaucoup d'exemples qui parlent de la faveur. Mais regardez avec moi dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Il nous est dit, verset 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, » Donc, Samuel a demandé à consulter le Seigneur parce que le peuple a demandé un roi. Le Seigneur a dit, le peuple a dit, tu sais, nous, on en a assez d'être comme tous les, d'être différents des autres. On veut être comme les autres. On ne veut pas que être guidé uniquement par toi. On ne veut pas de la théocratie. On voudrait un roi. On veut une royauté, nous aussi. Et le Seigneur a dit, bon, bah, écoutez, d'accord, je vais vous donner ce que vous voulez, mais je vous préviens, ça ne va pas être aussi marrant que ce que vous l'imaginez, parce qu'il va se servir de vous et il va dominer sur vous. Bon, bref, il a été obligé de choisir un roi, et c'est Saül qui a été choisi. Saül a été choisi, et puis à un moment, ben, il est allé vers ses propres voies, et il a fallu un remplaçant. Regardez ce qu'il est dit au verset 7. « Et l'Éternel dit à Samuel, en parlant de David, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je... en parlant de Saül. « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'homme regarde ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Si on veut la faveur de Dieu, encore une fois, Dieu aime tout le monde. Mais l'amour de Dieu ne suffit pas pour aller là où le Seigneur nous demande d'aller. Pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire, il faut que nous ayons autre chose sur nous qui est la faveur. Et pour avoir là la faveur, il y a une chose, c'est que Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire que Dieu n'est pas celui qui nous donnera la faveur si nos motifs ne sont pas purs. Dieu ne nous donnera pas la faveur si ce que nous voulons faire, c'est uniquement pour notre propre intérêt. Mais quand quelqu'un, la Bible, vous comprenez pourquoi la Bible nous dit, cherche premièrement le... le royaume. Il n'est pas dit, cherche premièrement à donner l'évangile, même si nous voulons le faire. Il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et quoi? Et toutes choses vous seront données en plus. Quand nous avons à cœur de rechercher les intérêts du royaume, de les mettre en avant, que le Seigneur voit notre cœur, le Seigneur est fait, est prêt à incliner le cœur de même ceux qui nous haïssent, de manière à ce que nous soyons rendus capables de libérer son royaume dans notre génération. Maintenant, regardez avec moi dans le psaume 119. Et là, je peux vous dire que je suis en train de... J'ai laissé plein de versets derrière moi. Et ça n'est pas grave. Psaume 119. Qu'est-ce qu'il est dit, verset 58? Ce que l'on veut savoir, c'est 1. Quand le Seigneur nous donne-t-il sa faveur? Bien sûr, quand il voit que nous avons un cœur qui est pur. Le Seigneur, encore une fois, le Seigneur ne se fie pas aux apparences. Ça veut dire qu'il ne se fie pas à ce qui est extérieur, mais il ne se fie pas à nos dons non plus. Il ne nous donne pas la faveur, enfin, en fonction des qualités, des ressources que nous avons. C'est juste une question de cœur. Juste une question de cœur. Vous avez trouvé psaume 119, verset 58. Qu'est-ce qu'il est dit là? Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Ici, c'est de tout mon cœur, j'ai cherché à te plaire. Accorde-moi ton appui comme tu m'as promis. Que dans cette version-là, j'ai cherché à te plaire. C'est « j'ai cherché ta faveur ». Mais il faut savoir, le mot ici est différent, c'est « panim », c'est le mot « face »,« j'ai cherché ton visage ». Vous voulez avoir la faveur de Dieu? 1. Assurons-nous que nos motifs sont purs, que nous cherchons le royaume de Dieu. Deuxième chose, eh bien, c'est de se placer devant la face de Dieu. Chercher la face, ça parle de quoi? Ben, ça parle d'intimité avec Dieu. C'est ça. Ça parle. C'est-à-dire que la faveur de Dieu, on ne la reçoit pas entre deux portes, en faisant une prière, en claquant la porte de sa voiture, en disant, bon, les seigneurs, je te remercie parce que ce rendez-vous-là, il va être, tu le bénis, hein, tu le bénis, Seigneur, hein, tu bénis, Seigneur, ce contrat que je vais signer, rappelle-toi, Seigneur, j'ai une alliance avec toi, et tu es de mon côté, merci, Seigneur, pour la... C'est pas comme cela. C'est laisser ce qu'il est, lui. On sait qu'on l'a en nous. Nous portons l'image de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Mais le fait de s'exposer devant lui fait que son reflet brille sur nous. Et c'est ce qui fait que nous avons la faveur avec Dieu. N'importe qui peut l'avoir. Mais cette année, Église La Bonne Nouvelle, on va mettre l'accent sur la faveur de Dieu, sur le fait d'être positionné dans des sphères d'influence. C'est ce qui va faire que l'on aura accès aux autorités. C'est le fait que là où des promotions ont été bloquées jusqu'à présent, vont se débloquer. C'est le fait que certaines portes vont s'ouvrir à nous, mais il faudra se rappeler, c'est grâce à la faveur que nous aurons pour étendre ou pour permettre à son royaume, à sa manière de faire, de s'installer. Comme nous l'avons vu hier en parlant de Paul, une fois que nous sommes en position, il ne s'agit pas de faire de compromis, mais il s'agit de réagir uniquement en fonction de la vérité, de rester du côté de la vérité. Et dans cette position d'influence-là, voir le Seigneur dénouer des affaires. Voilà comment nous pouvons utiliser notre foi. Le répéter après moi, la faveur est une arme puissante. C'est le charisme de Christ. C'est l'affection de Dieu qui fait que le cœur des autres sont enclins à m'aider. Qui fait que les autres sont prêts à coopérer avec moi. Qui fait que les autres mettent leurs ressources à ma disposition. Qui fait que je reçois de l'aide. La faveur de Dieu. Amen. Tu as un témoignage? Ben, je t'en prie.
Léo avait quelques difficultés en français. Alors, bon, au collège, il faut savoir que le programme a changé. Ils ont une façon... le programme est catastrophique. On voit déjà les fruits de tout ça. Et un des fruits de tout ça, c'était que mon fils avait un niveau de français qui était déplorable. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose parce que il commençait à vraiment être handicapé avec ça. Et puis je sais qu'en quatrième, ça ne va pas s'arranger. Donc il fallait qu'on trouve une solution et je cherchais. Et il se trouve qu'au village, à Ascross, il y a une dame qui est professeure de français pour les professeurs de français. Top niveau. Sauf que cette dame et Pierre se sont violemment fâchés. Il y a 25 ans de ça.
C'est la Corse, ça.
Voilà. Et donc, ben, voilà, il y avait aucune chance pour que cette dame nous vienne en aide. C'était pas possible, quoi. Sauf que, ben, voilà, j'ai prié. Je me suis dit, il faut qu'on demande à cette dame. Donc, on l'a appelée. Et elle a dit, écoute, parce que c'est ton fils, je vais l'aider.
Wow.
Et le plus beau dans l'histoire, c'est que donc aux dernières vacances scolaires, elle a pris Léo une heure tous les matins. Et en 5 heures de temps, il a récupéré facilement 2 ans de français.
Wow.
En 5 heures de temps. C'est-à-dire qu'elle a des méthodes qu'elle ne réserve qu'aux professeurs de français qui enseignent le français à l'étranger. Donc vraiment, et elle a appliqué ces méthodes avec Léo. Il a fait un devoir d'histoire géo une semaine après. Et la prof n'en revenait pas et elle a mis excellente argumentation, devoir parfait. Bref. En 5 heures de temps, on a bénéficié d'une faveur énorme avec cette femme. Gloire à Dieu.
Waouh. Voilà. Excellent.